Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Aujourd'hui, on a le genre d'entrevue que j'aime vraiment faire dans l'open mic, Max, parce qu'on parle d'une maladie qu'on connaît tous sans vraiment la connaître. Le diabète. Tu connais sûrement quelqu'un autour de toi qui a ça.
Oui, puis c'est vrai que, la phrase que tu as mentionnée, 100% vrai. Tu sais que ça a comme rapport avec le sucre, mais là, c'est-tu qu'il faut qu'il en prenne
pas... C'est-tu qu'il se pique dans le doigt, là? Ouais, non. C'est insuline.
C'est très approximatif, les connaissances sur le diabète.
Oui, puis tu sais, moi, dans ma tête, j'avais une amie au cégep, entre autres, puis je savais qu'il fallait qu'elle se pique ou qu'elle se teste ou qu'elle, peu importe, là, qu'elle traîne des pilules de sucre et compagnie, puis qu'elle gère tout ce qu'elle mange.
Mais ça, là, faut-tu que t'en prennes...
Je peux-tu offrir du gâteau ou
pas? Ouais. Ça vient mêlant. Des fois, ça y prend un gâteau.
Puis là, il y a deux types de diabète aussi.
En plus.
Type 1, type 2. Fait que je pense que pour la majorité des gens qui, peut-être ont un proche ou un ami qui l'ont, on est capable de savoir à peu près ce que c'est, mais si c'est pas le cas, c'est difficile. Et ce matin, on reçoit Nathalie Quinard, qui est directrice générale de Diavi, puis on va en parler de Diavi parce que c'est un organisme à but non lucratif qui aide les gens à mieux vivre avec le diabète. On sait qu'avec le système de santé qu'on a en ce moment, pas toujours particulièrement facile, puis ça aide les gens autant qui ont type 1 que type 2 à gérer justement le diabète au quotidien. Elle est aussi maman de deux enfants qui vivent avec le diabète de type 1. Bref, assez de quoi elle parle. Et ce matin, on va faire le tour de la question avec elle. Nathalie, bon matin.
Bon matin.
T'as plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté.
Bien, pareillement.
C'est quand même une maladie chronique qui touche plus de 720 000 Québécois, selon l'INSPQ. C'est pas rien. Puis si on parle de la capitale nationale, 57 000 personnes quand même atteintes, je vais dire, de cette maladie chronique-là. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est possible qu'on commence par la base? Nous parler de la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2.
Oui. Bien, en fait, il y a plus que deux types de diabète, mais oui. Bien, il y a le diabète gestationnel. Les femmes enceintes peuvent faire du diabète.
C'est vrai.
Puis il y a d'autres sortes de types de diabète, mais qui sont moins présentes. Fait que souvent, on parle type 1, type 2. Fait que type 2, c'est 90 % des gens, en fait, qui vivent avec le diabète sont type 2. Puis le 10 % pour les autres types. Puis on dit que le type 1, ça varie, là, c'est 6, 7, 8 % des gens là, qui ont le type 1. Puis on peut comparer type 1 et type 2 comme ski alpin, ski de fond. Ski alpin, ski de fond, c'est du ski, mais ski alpin, ski de fond, c'est pas du tout la même sorte de ski. Fait que le diabète type 1 et type 2, c'est deux types de diabète, mais c'est pas la même maladie.
Puis comment ça se traduit? Mettons qu'on explique à un enfant de 4 ans c'est quoi le diabète, là.
Encore là, il faut différencier le 2 du 1. Si on prend le type 1, c'est vraiment que le pancréas ne fonctionne plus du tout. Donc, le corps ne produit plus d'insuline. Donc, c'est une maladie auto-immune. C'est notre corps s'attaque à notre pancréas. Le pancréas ne fonctionne plus. Puis là, on a besoin d'insuline, d'injection d'insuline pour vivre. Le type 2, c'est plus le corps qui commence à mal réagir, pas réagir, mais mal utiliser l'insuline, ou encore le pancréas qui devient un peu paresseux, puis qui n'en produit pas assez. Donc là, la gestion du sucre dans l'organisme se fait mal. Mais les gens type 2 ne commencent généralement pas par de l'insuline. Ça va des médicaments oraux là, pour réguler le taux de sucre dans le sang.
C'est-tu notre faute, le type 2?
Ça, c'est un... C'est une sorte de mythe, en fait. On a souvent entendu dire le type 2, c'est les gens qui ont les mauvaises habitudes de vie, c'est les vieux, tout ça. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des jeunes et même des enfants qui ont le type 2. C'est fortement associé, évidemment, aux habitudes de vie, mais aussi beaucoup, beaucoup la génétique. Donc, si on en a dans notre famille des types 2, on a beaucoup plus de risques de l'avoir nous-mêmes.
Est-ce qu'il y a un âge auquel ça se développe ou est-ce que tu l'as à naissance, mais tu t'en rends pas compte tout de suite jusqu'à un certain âge? Comment ça fonctionne?
Bien, le type 1, c'est une prédisposition, qu'on dit prédisposition génétique, mais en même temps, c'est pas nécessairement héréditaire parce qu'il y a des familles qui ont une seule personne qui a le type 1 puis pas d'autres personnes dans la famille. On avait l'habitude de croire que c'était diagnostiqué à l'enfance seulement, mais ce n'est plus vrai. Il y a à peu près 60-70 % des nouveaux cas que c'est après 18 ans.
Okay, quand même.
Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup quand même d'enfants qui l'ont, là, mais on en voit à 40 ans, à 50, même à 70 ans là, qui se font diagnostiquer avec un type 1.
De ce que je comprends pour le type 1, ton pancréas ne fonctionne plus, fait que tu peux pas vraiment régler le problème autre que par la prise justement d'insuline. Mais pour le type 2, est-ce que c'est une maladie qui peut se régler avec le temps ou tu es pris avec aussi toute ta vie?
Les deux sont une maladie dite chronique. Donc, une fois qu'on l'a, on vit avec le restant de nos jours. Le type 2, on peut l'amener en rémission par contre. Avec la médication, avec un changement des habitudes de vie, on peut vivre finalement sans diabète, mais il est toujours là quand même. Donc, si on reprend des mauvaises habitudes, par exemple, bien là, il peut revenir. Le type 1, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de guérison.
Puis ça a l'air vraiment niaiseux comme question, là, mais je me dis, si je me la pose, je ne vais pas être seule. Là. Les affaires de piqûres, puis de... Je sais maintenant qu'il y en a qui ont des dispositifs carrément dans le bras ou dans le ventre, ou peu importe, à journée longue. Il y en a qui doivent encore le faire manuellement. Ouais. C'est quoi ça? Comment ça fonctionne, ça calcule quoi, ça mange quoi en hiver? Tu fais ça quand dans une journée?
Bien, pour connaître le taux de sucre qu'on a dans le sang, bien, il faut le mesurer avec un glucomètre. Ça, c'est justement les petites piqûres au bout du doigt. On récolte une goutte de sang et puis la petite machine qu'on a nous dit combien on a de sucre en circulation dans le sang. Et maintenant, bien, c'est remplacé pour plusieurs personnes par les capteurs de glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, on appelle ça un capteur de glycémie en continu. Donc, on voit toujours notre taux de sucre par rapport à ce qu'on mange, si on fait de l'activité physique. Et ça nous permet de mieux gérer le diabète. Les types 1, je dirais que la grande majorité vont avoir des capteurs parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'eux doivent vraiment se piquer avant de manger chaque fois, donc minimum 3 fois par jour, probablement 4 et 5, pour vérifier leur taux de sucre et savoir quelle dose d'insuline se donner. Les types 2 aussi, il faut quand même qu'ils vérifient leur taux de sucre pour voir bien, quel impact a eu leur alimentation, est-ce qu'ils doivent modifier leur médication. Donc, c'est important aussi pour ces gens-là. Par contre, ce n'est pas tous les types 2 qui ont accès aux capteurs remboursés, par exemple, par les assurances ou la RAMQ, parce que là, maintenant, ils se basent sur... il faut que tu aies au moins, je pense, c'est 2 ou 3 injections d'insuline là, par jour pour avoir accès aux capteurs. Mais évidemment, les compagnies se battent pour faire changer ça, là, parce que personnellement, je pense que tout le monde qui vit avec un diabète devrait avoir la possibilité d'avoir
ça
un capteur.
Ça facilite la vie, j'imagine, beaucoup, aussi. Beaucoup, là. Beaucoup. Fait que là, est-ce que c'est vrai que ces gens-là peuvent pas manger n'importe quoi?
Non, en fait, c'est faux. On dit toujours aux gens qui ont le diabète, vous pouvez continuer à manger ce que vous voulez. Par contre, il faut faire des choix judicieux. C'est sûr qu'il y a des aliments qui font monter la glycémie, donc il faut être conscient de ça. Pour les types 1, par exemple, ben, il faut qu'ils s'injectent la bonne dose d'insuline. S'ils mangent un morceau de gâteau, ils ont le droit, là, mais il faut falloir qu'ils s'injectent l'insuline en conséquence pour pas que le taux de sucre monte trop haut. Puis évidemment, dans le type 2, ben, on favorise les saines habitudes alimentaires, évidemment, là, mais ça veut pas dire que tu n'as plus le droit de prendre du vin, tu n'as plus le droit de prendre un bonbon, tu as quand même le droit de vivre. Là, donc.
Quand le taux de... Puis là, c'est comme j'ai une scène de film en tête, là, mais depuis, je me souviens même pas c'est quoi le film, mais quelqu'un qui est diabétique, que là, son taux de sucre tombe trop bas, puis là, il y a comme un suçon à terre plein de poussière, puis là, il suce le suçon pour ramasser du sucre, puis là, il se relève. Puis je pense que c'est dans le flic du mail.
Ça se peut.
En tout cas, c'est ça. Je sais même pas c'est quoi ma question. Je pense, ben c'est le taux de sucre, tu peux aussi le gérer comme ça quand il est trop bas, oui. Avec un bonbon. Tu sais, c'est pas juste un mythe, là. Je veux dire, c'est pas l'idéal de manger un son qui est à terre, là.
Non, mais... effectivement, mais ça, si on n'a pas le choix. Mais un type 1, par exemple, à cause de l'insuline, provoque des baisses drastiques de taux de sucre. Par exemple, on a fait un sport, on a dépensé beaucoup d'énergie, on n'avait pas mangé assez avant ou on s'était donné trop d'insuline, le taux de sucre peut vraiment baisser drastiquement. Donc, la première méthode pour leur monter, c'est effectivement de manger du sucre.
Oui, j'avais une amie, moi, à traîner soit des petits jus, soit vraiment des pastilles de sucre qui se vendent à la pharmacie. Là. Ouais. Fait que ça avait de quoi, là, à popper ça direct, puis je veux dire, ça la remettait
toi,
sur le piton.
Toi aussi, tu fais ça, mais ça n'a aucun lien avec le
non,
diabète.
Ça, non, c'est ça, moi, c'est vraiment juste parce que j'ai un besoin vraiment franc de sucre au quotidien. Qu'est-ce qui arrive, justement, quand tes diabètes puis que tu t'occupes mal de ta condition. Dans les deux cas, là, ça chute ou ça monte? Comment tu te sens? Comment ça se traduit?
Bien, l'hypoglycémie, ça se traduit... Bien, c'est pas tout le monde qui ressent ces symptômes, d'où le fait d'avoir des capteurs.
Hypo, c'est que t'en as pas assez?
Hypo, t'en as pas assez. Donc, souvent, tu manques d'énergie, fatigue, maux de cœur, tu te sens faible. À la limite, tu peux t'évanouir si le taux de sucre est beaucoup trop bas. Et à la limite, tu peux en mourir si tu réagis pas. Parce que si on tombe à un taux de sucre de 1, par exemple, on est sur le bord d'aller à l'hôpital. Là. Donc, les diabétiques type 1 ont aussi une petite poudre nasale. Maintenant, c'est ça qui est donné, là, qu'on envoie dans le nez et puis qui peut remonter une personne qui est, par exemple, en état de coma parce que passé de sucre. Donc ça, c'est les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais généralement, c'est ça. On le sent dans le corps, là, qu'on est c'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 5-6 heures.
Mais c'est
là.
Ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on peut être en hypoglycémie?
Il y a certaines conditions qui, oui, font que les gens vont être borderline ou un petit peu puis oui, il y a de l'hypoglycémie qui ont non associé au diabète. Mais là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière. Là. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, mais oui, c'est possible. Okay. Donc, les gens, des fois, vont savoir c'est quoi un peu les symptômes. L'hyperglycémie, trop de sucre dans le sang, souvent, c'est maux de cœur, maux de ventre, maux de tête, fatigue. Il y en a qui viennent excités aussi. Ils ne se sentent pas bien, en fait, en général, l'un comme l'autre. Là.
Qu'est-ce qui fait que de plus en plus de jeunes et de gens sont atteints du diabète? T'sais, tantôt, on a effleuré un peu le sujet sur le fait que maintenant, tu as même des jeunes qui ont le type 2. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de mal?
Bien, le type 2, le fait que c'est des gens de plus en plus jeunes, une des causes principales, c'est la sédentarité. On bouge beaucoup moins qu'il y a 50 ans, mettons. Mm-hmm. On a souvent notre travail, notre emploi, on est assis. À la maison, on s'assoit. On bouge vraiment pas assez. Donc ça aide pas, le fait d'être sédentaire. L'accès à l'alimentation rapide aussi. On mange vite, on achète de quoi vite dans un resto, l'épicerie. Donc ça peut contribuer aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit que les habitudes de vie ont un grand lien avec le diabète de type 2. Par contre, il y a des gens qui n'auront pas la génétique, qui vont avoir des mauvaises habitudes de vie puis qui n'auront pas le diabète.
Un des problèmes, ça part-tu simplement du fait qu'on n'en parle pas assez? Puis oui, des mauvaises habitudes de vie en partant, mais du fait aussi que ça puisse mener au diabète. Puis là, on voit, avec toutes nos questions, on voit à quel point c'est méconnu, là.
Oui, bien, je pense que oui, on n'en parle pas assez du diabète. Là. Effectivement, souvent, les gens, quand ils ont leur diagnostic, ils tombent un peu en bas de leur chaise. « Mon Dieu, pourquoi j'ai ça, moi? D'où ça vient? » Puis encore, c'est une maladie qui n'est pas très bien connue. Dans les deux cas, ce n'est pas un type 2. On sait qu'il y a des éléments génétiques. On ne sait pas exactement lesquels. Il y a beaucoup de gènes impliqués là-dedans. C'est mélangé avec des facteurs environnementaux. Donc, c'est pas hyper bien connu. On n'est pas capable de mettre le doigt sur « OK, toi, tu vas avoir un risque de 100% de l'avoir parce que telle raison. » Donc, on a des pistes dans le type 2, fortement génétique. Type 1, ben, il y a des familles. Souvent, c'est relié aux maladies auto-immunes. Donc, s'il y a déjà des maladies auto-immunes dans la famille, on est plus à risque de l'avoir, etc. Mais il n'y a pas de réponse vraiment facile à donner.
Tu es maman de deux enfants qui vivent avec le diabète de type 1. Est-ce que c'est ce qui fait que tu t'es retrouvée à Diavi ou c'est un... Ah oui, OK, c'est
ça. Oui, oui. Mon fils a été diagnostiqué il y a 8 ans maintenant. Puis à partir de ce moment, évidemment, comme tout parent qui a un enfant avec le diabète de type 1, c'est un choc. On ne sait pas trop c'est quoi non plus. Les glucides, je n'avais jamais entendu parler de ça avant que mon fils soit diabétique.
C'est beaucoup d'éducation tout d'un coup.
Ah oui, oui, c'est énorme. Puis c'est là que moi, ma façon de réagir à moi, ça a été de m'informer, de m'impliquer dans les projets de recherche reliés au diabète, dans les associations, etc. Puis de fil en aiguille, j'en suis venue à Diavi. J'ai aussi des gens dans ma famille qui ont le type 2, donc je m'intéresse également au type 2, puis pourquoi justement c'est en explosion, là. Mais oui, et les gens... Souvent, c'est difficile de faire la sensibilisation au diabète puis d'intéresser les gens à la cause parce que c'est pas connu. Puis on se fait souvent dire « oui, mais le diabète, c'est pas comme avoir le cancer ». Oui, c'est pas comme avoir le cancer.
Moi, c'est une condition à vie, par exemple.
C'est ça. J'aime pas mettre des maladies ensemble puis les comparer, là, parce que chaque personne vit sa vie et vit ses défis. Mais c'est chronique. C'est ça qu'il faut retenir. C'est chronique. Il y a des moyens de... peut-être empêcher le diabète de type 2 quand on le sait d'avance. Type 1, malheureusement, on ne peut rien faire. Si on l'a, on l'a. Mais au moins d'être au courant des symptômes, parce que type 1, par exemple, si on n'est pas au courant des premiers symptômes, l'enfant ou l'adulte peut se retrouver à l'hôpital en coma diabétique là, ou en acidocétose. Ça veut dire qu'il y a des toxines dans le sang parce qu'il y a trop de sucre dans le sang.
Comment tu gères ça avec des enfants? Parce que mine de rien, il faut que tu leur apprennes. Il faut qu'ils développent une certaine autonomie à un certain moment. Là.
Oui. C'est sûr que mon fils, moi, il avait 6 ans, fait qu'au début, c'est pas mal les parents qui gèrent, là, et puis tranquillement, pas vite, on leur apprend à faire certaines tâches, à être conscients, surtout de leurs symptômes, parce que quand ils commencent à aller à l'école, après ça, ils vont chez des amis, il faut qu'ils soient capables un peu de gérer tout ça. Fait que ça vient avec le temps, parce que c'est énormément de choses, calcul des glucides, calcul des doses d'insuline... C'est une mauvaise nuit de sommeil parce qu'on est en hypo 3-4 fois durant la nuit, fait que c'est de l'apprentissage. Même chose, un adulte aussi qui se retrouve du jour au lendemain, parce que moi, ma fille a été diagnostiquée à 21 ans. Donc, elle avait vécu 21 ans de sa vie sans diabète.
Ça, ça doit être plus, puis je vais pas dire plus facile, je vais dire moins difficile.
Ça dépend.
Que quand tu apprends de très, très jeune, puis que ça fait partie de ta vie depuis toujours. On a reçu des textos, tu sais, de gens qui apprennent à 35 ans, à 41 ans, qui n'ont jamais vécu avec ça.
Tu changes tes habitudes.
Tu dois changer ton mode de vie complètement.
Bien, c'est ça, ça dépend. Il y en a qui vont dire, je suis contente d'avoir vécu 21 ans sans diabète.
C'est vrai.
Puis il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais ça fait 21 ans que je vis sans diabète, puis tout d'un coup... Il faut que je gère mon taux de sucre, l'insuline, que je regarde ce que je bois, ce que je mange. Donc, je pense que ça dépend de chaque personne.
Tu as parlé de la nuit, ça me perturbe un peu. Les gens qui ont le diabète doivent gérer ça la nuit aussi?
Oui, parce qu'on peut tomber en hypoglycémie pendant la nuit. Et si la personne ne reconnaît pas ses symptômes, des fois, il paraît qu'ils finissent toujours par se réveiller parce qu'ils ne se sentent pas bien. Donc là, ils vont se réveiller, ils vont prendre le sucre. Moi, si je me fie, mon fils est un gros dormeur. Souvent, il ne se réveille pas. C'est l'alarme qui nous réveille. Donc moi, j'y vais, je vais le voir, je le réveille, je lui donne du sucre pour se remonter. Il se rendort, mais des fois, c'est 2-3 fois dans la nuit, là, pour X raisons. Là.
Dans ma tête, c'était que 2 jours, ça. Quand tu ne mangeais pas, tu n'avais pas à gérer ça.
Non, non, le taux de sucre, on ne contrôle pas ça. T'sais, chez quelqu'un qui a un pancréas fonctionnel, le pancréas, il va te donner de l'insuline quand tu en as besoin, il va arrêter de t'en donner quand tu n'en as pas besoin. Tout est fait de manière naturelle. Mais dans le fond, personne diabétique a le pu son pancréas qui fonctionne. Donc, c'est lui, la personne qui doit gérer elle-même son taux de sucre. Donc...
Pour les personnes qui ne connaissent pas Diavi, j'ai l'impression que c'est la majorité des gens. Je ne connaissais pas Diavi. Tu es directrice générale pour cet organisme-là à but non lucratif. Peux-tu nous en parler un peu? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous offrez comme service aux gens qui vivent avec le diabète?
Oui, bien moi, je vois Diavi un peu comme une communauté. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on devienne aussi, une communauté de gens qui vivent avec le diabète, mais aussi leur entourage, parce que ça touche la famille, ça touche les amis. On offre des services... je dirais plus rapide un peu que dans le système de la santé, à faible coût. On a une nutritionniste, on a une kinésiologue, on a des infirmières. On offre des cours de l'enseignement sur le diabète, sur la nutrition. On donne des conférences aussi sur différents sujets liés au diabète et plein d'autres choses. On a vraiment plein de services et d'activités, là, vraiment pour les gens qui vivent avec le diabète, peu importe le type.
C'est peut-être plus facile de s'informer aussi avec un organisme comme ça directement que d'attendre des nouvelles de ton médecin ou du médecin si tu n'as pas de médecin de famille puis tu es obligé d'avoir
c'est ça le problème. Surtout les types 2. Les types 1, généralement, sont pris en charge à l'hôpital. Ils ont une clinique, ils ont des gens autour d'eux. Mais encore là, ça devient difficile des fois qu'on est adulte. Les types 2, des fois, il y en a qui n'ont pas de médecin de famille, pas d'infirmière, personne. Alors, pour avoir un rendez-vous, pour avoir un suivi, c'est pas évident. Donc, nous, on est un peu là pour les aider, les guider. Tant au niveau, quand ils viennent d'être diagnostiqués, mais ça peut être aussi à la longue. Là. Puis parler avec d'autres personnes. On a des groupes de discussion pour qu'ils se rencontrent entre eux, parlent de leurs défis, de leurs bons coups.
Est-ce que Diavi est juste à Québec ou c'est partout au Québec?
Non, nous, on est vraiment ici. On est à Sainte-Foy. On couvre Capitale-Nationale, Rive-Sud, Portneuf un peu. Puis il y a des OBNL comme le nôtre un peu partout dans la province.
J'ai envie de te demander en terminant, Nathalie, selon toi, les plus grands trous dans le filet de sécurité, mettons, pour les personnes diabétiques au Québec, y a-t-il quelque chose qu'il faudrait qu'il change? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour aider davantage? Ou c'est vraiment juste de faire connaître, justement, des organismes comme le vôtre puis de parler de plus en plus de cette maladie chronique-là?
Bien, je pense que oui, d'en parler pour que les gens soient au courant. C'est quoi le diabète? Quels sont les symptômes? Se surveiller soi-même, dans le fond. Parler d'organismes comme le nôtre, je disais qu'il y en avait à travers le Québec. Donc, chaque région probablement en a un. On peut aider. Nous, on vient en soutien au système de la santé. On s'entend que le système de la santé est débordé aussi, là. Puis oui, un meilleur accès aux médecins de famille serait souhaitable, un meilleur accès aux spécialistes aussi, là, mais en attendant, nous, on peut quand même aller aider les gens et puis les recouper aussi des fois de se retrouver ensemble puis de parler de la maladie, de ce qu'on vit, tout ça, je pense que c'est une bonne chose.
Ça doit être apaisant, ça doit être rassurant. Pour vous rejoindre, si les gens veulent des informations supplémentaires, voir ce que vous faites, Diavi, c'est directement sur le site web?
Oui, notre site web, diavi.org, sinon par courriel à info@diavi.org.
T-I-A-V-I-E, en passant, si jamais ça vous intéresse.
Nathalie Quinard, directrice générale de Diavi, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Audrey. Puis en passant, c'est vraiment le flic du mail, le film.
Le film. Et le pire, c'est que j'ai vu ce film-là, puis là, je cherchais, ça fait longtemps.
J'ai tellement
adoré. Je cherchais la scène, puis je me disais, voyons, je me souviens pas de ça, je suis son plat de cochonnerie.
On a reçu un texto qui me l'a confirmé. Paul Blart dans Le Flic du Mail, c'est lui qui est diabétique. Bref, excellent film que je pense que je vais réécouter. Non, c'est pas grave, il faut que je finisse Stranger Things, mais en tout cas, je vais le réécouter bientôt.
Et je me prends une note aussi.
T'enverrai la scène. Merci beaucoup. Au retour, on jase de la rencontre qui a eu lieu dans les dernières minutes entre François Legault et Bruno Marchand, maire de Québec. Pascal Cébé va aussi venir faire son tour. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max.